bien l'âme. Savoir que nous avons un grand Dieu, un Dieu puissant, un Dieu qui nous aime. Allez, on va ouvrir l'évangile de Luc, chapitre 4. Luc, chapitre 4, verset 16, où il est dit que Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. » Trouvez pas que Jésus annonce ici de bonnes choses? Ce sont des promesses. Parce que Dieu nous parle, il nous fait des promesses. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc il faut d'abord croire pour ensuite voir la gloire de Dieu. En tout cas, comme il le dit, il est venu pour délivrer, pour libérer, pour consoler nos cœurs, pour quelque part nous restaurer intérieurement, pour faire, je dirais, du bien. Eh bien, et cette parole lue par Jésus dans cette synagogue à Nazareth, il y a plus de 2000 ans maintenant, eh bien, sachez qu'elle est toujours d'actualité. Amen. Elle est donc pour nous aujourd'hui. Elle est pour vous. Elle est pour moi aussi. Elle est pour ceux qui veulent croire. Parce que ça part de là. En tout cas, l'évangile n'est pas dépassé. Il est loin d'être désuet, comme certains le croient. C'est une parole d'espérance. Parce que l'évangile, qui signifie bonne nouvelle, est là pour nous donner de l'espérance. Amen. L'espérance pour qui ? J'y reviens. Pour chacun d'entre nous, mais d'abord, il faut croire. Tout part de là, la foi. Est-ce que je suis né avec la foi? Non. Bien qu'il m'a fallu beaucoup de foi pour arrêter mon véhicule et prendre la pédale du milieu et freiner. Mais ça, c'était la foi que mon véhicule allait s'arrêter. Mais il y a une foi qui sauve. Et celle-là, elle se trouve dans la personne de Jésus. Alors, Jésus ayant déroulé le rouleau du livre Ésaïe, qu'on lui a présenté, bien, il lit ce texte qui le concernait au plus haut point. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu m'a oint. Amen. Le Père Céleste m'a oint. » Et ça, ça leur parlait. Parce que le Père, il le connaissait. Ils avaient besoin de découvrir le Fils, celui qu'on appelle loin de l'Éternel. Pas qu'il est loin, mais ça parle d'onction. Celui qui a reçu l'autorité. Quand il dira « Le Père et moi, nous sommes un », ça a scandalisé eh bien, tous les chefs religieux. Mais Jésus s'adressait à tous, à ces grands qui avaient besoin de se remettre en question, mais également aux tout petits qui étaient là, à côté, qui entendaient et que le Seigneur voulait lui faire du bien. Alors il dit par là qu'il est revêtu du pouvoir de Dieu, qu'il a la puissance pour faire des choses extraordinaires auxquelles l'homme peut s'attendre, bien sûr, parce que, je dirais, Dieu lui-même lui a donné l'autorité sur toute chose. Amen. Il a donné le pouvoir sur toute chose. Alléluia. C'est comme ça qu'il a pu ordonner à Lazare de sortir du tombeau. Alors qu'il sentait, quand il a dit « Roulez la pierre, allez, on va le faire sortir de là. » Ses sœurs étaient venues le voir et lui disait « Mais cette maladie, elle est pour la gloire de Dieu. » Aucun doute chez lui. Aucun doute quant à son autorité. Elle est pour la gloire de Dieu. Ils ont roulé la pierre, ils sentaient déjà, ils l'ont fait sortir, ils ont enlevé les bandelettes qui le tenaient, ils le tenaient prisonnier. Il fallait que la vie se manifeste à nouveau et c'est ce qui s'est passé. Il est sorti vivant, alléluia. Bien sûr que Jésus a adressé une prière à son père, non pas pour lui, pour consolider sa foi, pour se rassurer. Non, non, pas du tout, il a dit « Je sais que tu me réponds toujours, c'est pour eux et c'est pour vous ce soir ». Que l'évangile est annoncé, que la bonne nouvelle de Jésus est annoncée. Amen. Alors l'Éternel a oint Jésus du Saint-Esprit. Et lorsque Jésus était sur la terre, que de miracles n'a-t-il pas fait de ses mains ? Poser sa main sur un paralytique ou lui dire « Lève-toi, prends ton lit, rentre chez toi. » Formidable, hein, parce qu'il allait devoir dormir à nouveau dans sa maison, hein, avec son lit. Eh oui, Jésus est tout-puissant. Alléluia. Jésus communiquait quelque chose d'extraordinaire aux gens qui étaient dans le besoin. Hein, et ceux qui passaient par des temps de souffrance et de douleur pouvaient espérer. Parce que Jésus passant par là, il allait se passer quelque chose pour eux comme ce soir. Jésus est au milieu de nous, je le rappelle, aux deux ou trois sont assemblés en mon nom, dit-il, je suis au milieu d'eux. Alors le Seigneur poursuit cette lecture, hein, c'est le livre du prophète Ésaïe, 61, verset 1er. Il dit, l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Cherche pas, c'est dans Luc chapitre 4, verset 18, il reprend les paroles d'Ésaïe, il n'a fait que citer la parole de Dieu. Hein. Alors avec le contexte actuel, puisqu'il dit que lui, il a été oint pour annoncer une bonne nouvelle. Hein. Aujourd'hui, est-ce que vous croyez que les bonnes nouvelles le courent des rues ? À chaque coin de rue, j'ai une bonne nouvelle qui m'attend. Ouais, la facture. Bilan médical. Oh, pétard. Vous comprenez ce que je veux dire ? Les bonnes nouvelles ne courent pas les rues, c'est sûr, bien sûr. Hein. Alors, qu'entendons-nous plutôt dans les conversations des uns des autres ? Voilà, mon neveu a eu un grave accident. Actuellement, il est dans le coma. On ne sait pas s'il va survivre. Dernièrement, ma fille nous a annoncé son divorce. Elle est partie avec un autre. Elle a laissé les enfants. Mon grand-père est dépressif. Il est malheureux. Il n'arrive pas à se défaire de sa situation. Il plonge de plus en plus. Mon petit-fils, eh bien, est à sa deuxième tentative de suicide. Mon cousin est en chômage, etc., 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 etc. Vous pouvez y mettre vos situations. Si justement vous êtes dans des situations difficiles, le Seigneur vous voit. Le Seigneur Jésus. Il lit dans votre cœur, il voit votre peine, votre souffrance, votre désarroi. Il sait toutes choses parce qu'il a cette autorité, cette puissance, cette onction qui lui vient de Dieu. Amen. Alors, comme vous constatez avec ce que je viens de dire, ce ne sont pas des bonnes nouvelles, mais ce sont des nouvelles plutôt accablantes, redoutables, déprimantes. Eh oui, ça c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Combien de foyers sont atteints justement par de mauvaises nouvelles ? Et peut-être vous, et qui entendez ces paroles ce soir, vous souffrez intérieurement, parce qu'il vous arrive toutes sortes de choses qui, quelque part, vous rendent malheureux, des choses douloureuses. Elles vous occasionnent des angoisses. La nuit, vous vous réveillez, vous êtes transpirant, vous ne savez pas pourquoi, mais vous savez que vous avez vécu quelque chose dans votre sommeil. Ça vous tient le jour, la nuit, c'est difficile. C'est ce qui se passe en ce moment pour vous. Mais voici que notre texte déclare tout simplement que Jésus, il est venu annoncer une bonne nouvelle. Alors, quelle est cette bonne nouvelle ? Parce qu'il faut en parler. Il faut y venir et en parler parce que c'est important, les bonnes nouvelles. Bien souvent, on vient sur l'épaule de quelqu'un et puis on répand son âme, on répand son cœur et ça le rend triste lui aussi. Ça le charge en plus parce qu'il aimerait vous aider, il aimerait vous encourager, mais il ne peut pas. Celui qui le peut, c'est Jésus. Alors, cette bonne nouvelle, hein, c'est que Jésus, je l'ai déjà dit, mais je le redis, il est ici ce soir dans ce lieu. D'accord ? Je ne parle pas du petit Jésus que l'on sort à Noël. Hein. Non, mais c'est le grand Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur. Celui qui a vaincu la mort. Parce qu'il a été déposé au tombeau après avoir été crucifié. Et il est sorti du tombeau, il est sorti vivant. Amen. Il est là, revêtu de la puissance de Dieu. Il est venu pour délivrer, dit-il. Il est venu pour consoler. Alléluia. Il est venu pour restaurer, pour guérir. As-tu besoin de guérison ? As-tu besoin de restauration intérieurement, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit ? Alors Jésus est là ce soir pour toi. Il le dit, hein, je suis venu pour cela. C'est pourquoi il t'invite. Il t'invite tout simplement à mettre toute ton espérance en lui. Toute ton espérance, c'est-à-dire à mettre toute ta foi, alléluia, même si elle est petite comme un grain de moutarde. D'ailleurs, il dit que la foi comme un grain de, la taille d'un grain de moutarde, c'est tout petit. Hein? Eh bien, ça déplace des montagnes. Il y a une montagne devant toi. La maladie est une montagne qui est devant toi. la peur qui te terrorise, la peur de l'avenir, c'est cette montagne qui est devant toi. Aie confiance en lui. Et si tu as confiance en lui, cette montagne va se déplacer. Amen. Tu vas lui donner la capacité de pouvoir agir dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Parce qu'il le veut, il le désire. Mais il ne le fera pas si toi tu ne le veux pas. Mais si tu l'invites justement à faire le miracle, si tu l'invites à faire quelque chose pour toi, il va le faire. Parce qu'il est venu pour cela. Ou alors l'évangile serait faux. Non. Une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. L'évangile, c'est le livre de la vérité. Mais il faut croire en lui. Ce n'est pas un livre quelconque. Hein. C'est le livre de Dieu. Et je reviens à ce que je disais au début. C'est là où nous trouvons les promesses de Dieu. Et quand Dieu fait une promesse, il n'est pas comme les hommes. Il veille sur sa parole pour accomplir la promesse. Amen. Alors lorsque vous passez par la détresse, que vous l'invoquez, que vous faites appel à lui, il est celui qui vous dit ceci. Ne crains rien, je suis là. Ne t'inquiète pas. Fais-moi confiance. Et tu verras, si je ne suis pas capable d'ouvrir pour toi les écluses des cieux, afin que la bénédiction descende jusqu'à toi, qu'elle te visite, qu'elle te transforme. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle, ça, dites-moi. On vous proposerait, je ne sais pas, de gagner au loto, à la loterie, ou je ne sais pas ce qui existe en ce moment. C'est mieux quand vous ne savez plus où vous allez. Quand vous vivez dans la crainte, dans la terreur, vous n'osez plus sortir. Il y a des personnes comme ça qui n'osent même plus mettre les pieds dehors. Se font livrer à domicile. Elles ont peur, eh oui. Alors la Bible nous dit que lorsque nous sommes pardonnés, si nous croyons en lui, eh bien qu'est-ce qui se passe? Une vie nouvelle jaillit en nous. Ainsi dira la Samaritaine. Hein. Si tu connaissais celui qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau de la vie. Non, pas de l'eau de vie, hein, mais de l'eau de la vie qui te conduira jusque dans la vie éternelle. Mais oui, mais c'est important de préciser ces choses. Hein. Nous sommes sauvés lorsque nous croyons en lui, que nous acceptons tout simplement de nous remettre en question, lorsque nous lui demandons pardon, parce que nous réalisons que nous sommes perdus, que ce que nous vivons, ce que nous pratiquons, ce que nous faisons ne correspond pas au standing de Dieu. À partir de là, il se passe une chose formidable, c'est que nos pensées sont transformées. Nos désirs ne sont plus les mêmes. Rien. On n'a plus les mêmes idées, les mêmes désirs, la même soif. C'est tout à fait autre chose. On a soif de pureté, on a soif de vérité, de justice. Amen. Et on sait que Dieu, c'est le Dieu de justice, c'est le Dieu de vérité. Alléluia. Alors, il faut se confier en lui. Vous savez que Jésus est allé jusqu'à la croix du calvaire. Il a choisi le sacrifice pour que nous ayons la vie. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que cela représente. Lui, le seul juste que la terre ait connu. Le seul qui n'a pas commis de péché, qui, dans la bouche duquel il n'est rien sorti de mauvais, mais que des bonnes choses. Lui que nous avons accusé, moi j'ai levé le poing contre lui, je l'ai accusé. Il était pour rien. C'était ma faute. Parce que bien souvent, on accuse les autres, mais si on regardait un petit peu chez soi, croyez pas? Alors c'est ce qu'il faut faire. Il faut se remettre en question. Et quand on est sauvé, la Bible nous dit que nous sommes sauvés par le miracle qu'il produit en nous. Et il nous donne cette régénération intérieure. Je disais, ces pensées nouvelles, ce cœur nouveau, ces désirs nouveaux, l'envie de faire du bien. Amen. Ne plus envie de critiquer, mais au contraire, de regarder chez soi, de dire, je ne suis pas meilleur, alors je dois me taire. Mais oui! Mais oui, c'est ça. On se fait du mal, on fait du mal aux autres. Et quand on se convertit, vous savez ce qu'on fait? Moi, je l'ai fait à mon patron. Lui que je voulais prendre, je voulais prendre la châtaigne, son adjoint, oui, je lui ai pris la châtaigne. Mais lui que je voulais prendre la châtaigne, quand je lui ai dit que je priais pour lui, il est tombé des nues. Il est tombé des nues. Eh oui, on est capable de dire à quelqu'un, je prie pour toi parce que je veux que tu sois sauvé. Tu m'as fait du mal, c'est pas grave, je te pardonne. Vous croyez que c'est humainement facile à faire? Humainement, c'est impossible. Il y a trop de ressentiments. Ça déborde, on a envie d'exploser. On a envie de régler le coup comme ça. Hein. Et puis quand on se convertit, on est capable de dire à son ennemi, je prie pour toi. Je veux que Dieu te fasse du bien. Formidable. Mais c'est le miracle. Hein. Alors Jésus ajoute, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors si nos médecins font des choses incroyables lorsqu'ils opèrent des corps malades, parce que c'est formidable, hein, croyez qu'ils peuvent opérer un cœur brisé ? Changer un cœur, réparer quelques valves, d'accord ? Mais un cœur brisé. Alors si ton cœur est brisé, ami, alors oui, il a besoin de guérison. Il y a une guérison. Et c'est ce que Jésus se propose de faire en cet instant. Vous savez, il y a toutes sortes de discussions théologiques aujourd'hui dans les milieux religieux. Alors, je précise ceci, l'évangile, c'est plus qu'une doctrine. Eh oui, plus que de la théologie qui nous semble si souvent abstraite quant à nos problèmes quotidiens, à notre vie quotidienne. Quand ça vole trop haut, ça vole trop haut. Quand on est blessé, on ne peut pas se secouer comme on nous dit, là, secoue-toi un peu. Ah oui, mais le ressort, il est cassé. J'ai rencontré des personnes, j'ai visité des personnes, j'ai également accompagné des personnes qui étaient dans une profonde dépression. Leur cœur était brisé. Il n'y a plus de dynamisme. Quand tu lui parlais, je me souviens de cette Fabienne, quand on lui parlait, je disais, Fabienne, le Seigneur est là. Vous croyez, pasteur ? Mais oui, il est là, le Seigneur. Allez, on va prier. Mais vous croyez qu'il entend la prière ? Pourtant, elle était chrétienne, mais elle était tombée tellement bas, qu'elle ne savait plus comment se relever. Alors, on a prié, on y est revenu, on a remis, comme on dit, l'ouvrage sur la table, et en avant, on a prié, on est revenu, et allez, on l'a revisité, on l'a exhorté. Et puis, un jour, elle est sortie de là. Et le déclic. Elle avait quand même 3 gosses, c'est sa maman qui faisait tout à la maison. Son mari travaillait, il était livreur. Eh oui. Et puis un jour, elle est sortie de là. C'est-à-dire qu'elle a eu, quelque part, une visitation de Dieu. Le Seigneur l'a relevée, lui a redonné l'espérance. Et c'est là qu'elle nous avouait, elle disait, mais j'avais plus aucun goût, plus aucun désir. Elle était recroquevillée sur son canapé, c'est tout ce qu'elle avait. Elle n'avait que ça. Et elle ne voyait rien d'autre. Jusqu'au jour où le Seigneur l'a visitée. Amen. Il a guéri son cœur. Alléluia. Il a recollé les morceaux. Je ne sais pas comment il en fait, mais il a guéri. Et de nouveau, elle s'est mise à espérer. Et là, on voyait tout le bonheur qui émanait d'elle. Elle a compris. Elle a pleuré parce que c'est vrai, elle disait, mais j'ai laissé tout le tracas à ma belle-mère et à mon mari. Mes enfants, ils m'ont vu. C'est pas grave. Je pense qu'ils préfèrent te voir maintenant comme ça que comme tu étais à te morfondre, à ne plus savoir ce que tu devais faire, à rien du tout, faire un pas devant. Mais comment on fait un pas devant ? Vous voyez ? Et c'est pas là, en lui disant, allez, secoue-toi un peu ! Il n'y a pas de force, il n'y a rien. On le culpabilise encore plus. Vous voyez un petit peu comme quoi il faut être sage. Hein ? Eh oui. Alors oui, le Seigneur, lui, fait des choses incroyables. Amen. Vous savez, il y a toutes sortes de ces discussions-là, ne servent à rien parce que le plus important, c'est que cette personne soit touchée, c'est que le malade soit guéri, c'est que le cœur brisé soit restauré. Amen. C'est ça. C'est-à-dire que l'Évangile nous propose de faire des expériences. Amen. Notamment l'expérience de voir notre cœur brisé être restauré. Ah, Fabienne, merci Seigneur pour elle. Alors, je vous le dis à nouveau aujourd'hui, si vous avez un cœur brisé, le Seigneur est capable, allez, de recoller les morceaux. Il ne manquera pas une pièce avec lui. Non. Il peut le reconstruire, donner un cœur nouveau, une espérance nouvelle, vous restaurer entièrement. Amen. Mais il faut vous laisser guérir intérieurement. Il faut accepter. Moi, je ne peux rien. Mais je compte sur toi, Seigneur. Amen. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais... fais-le, Seigneur. Ça, c'est la prière qui doit sortir de votre cœur ce soir. Amen. Et laissez-vous guérir intérieurement. Laissez la paix de Jésus pénétrer dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit. Laissez la joie venir vous saisir. Amen. Sa plénitude va vous remplir et vous allez pouvoir vivre quelque chose de nouveau. Des choses, justement. Ces choses-là ne sont pas abstraites, mais elles sont vraies. Elles sont vraies. Allez dire à Fabienne, ça ne marche pas. Est à Béziers, hein? Voilà. Quand j'étais pasteur à Béziers. Alors, Jésus ajoute encore, Dans la lecture que nous avons faite et qu'il a faite dans cette synagogue, que nous avons faite tout à l'heure aussi, il a dit qu'il a été oint pour proclamer aux captifs la délivrance. Vous savez, point n'est besoin d'être dans une prison pour être un véritable prisonnier. On peut être prisonnier de ses conceptions. Il faut en être délivré, parce que sinon on ne vit plus. Parce que le monde ne fonctionne pas comme nous fonctionnons, ou comment fonctionne notre esprit, notre âme, notre cœur. Puis il y a tellement de gens qui sont prisonniers en dehors de nos prisons. Oui, prisonniers de l'alcool, et il y en a. Prisonniers de la pornographie, et il y en a, plus qu'on imagine. Prisonniers des jeux d'argent. Je me souviens de ce prof de guitare que j'avais à Béziers. Un gars super doué à la guitare. Oh là là, extraordinaire. Il avait une deux chevaux, on l'a poussé pour qu'elle démarre parce qu'elle avait des difficultés avec le démarreur. Et puis un jour, on m'a expliqué. Lui-même est venu me voir. Il m'a demandé rendez-vous parce qu'il voulait autre chose. Il m'a expliqué qu'il avait la voiture de sport, la moto, belle moto. Il avait une belle fiancée. Il avait un bel appartement. Tout était beau. Mais il n'avait plus rien. Il a tout joué. Fils de médecin, petit-fils de médecin. Ça vous va? Il avait été happé par le jeu. Et puis au fur et à mesure, il a tout perdu. Tout perdu, tout perdu, tout perdu. Il lui restait cette deux chevaux. Et donc un jour, il m'a demandé rendez-vous. J'ai pu parler avec lui. J'ai pu lui expliquer que Jésus était capable de faire de lui une nouvelle créature, capable de le délivrer tout simplement, et bien de ceux qui le tenaient, est-ce qu'il le rendait esclave, ce qu'il était, l'avait rendu prisonnier, le jeu. Et oui. Alors, on peut être prisonnier de bien de choses. Je ne sais pas de quoi tu es prisonnier. Mais si tu es prisonnier de quelque chose dont tu sais ce qui te tient en ce moment, ce qui te rend malheureux, esclave, tu as besoin de tourner les regards vers Jésus. Tu as besoin d'inviter Jésus à venir dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme, de faire de toi une nouvelle créature. Bien des personnes sont esclaves, malheureuses. Elles ont comme des liens intérieurs, on ne les voit pas. Quand vous les voyez, excusez-moi, on pourrait leur donner le bon Dieu sans confession, hein, mais quand vous les voyez bien, vous dites, elle a l'air heureuse. Mais si vous saviez ce qui se passe à l'intérieur, si vous saviez ce qui se passe à l'intérieur, eh oui. D'autres sont drogués, d'autres sont prisonniers de leur paresse, d'autres sont prisonniers de leur mauvais caractère et qui les amènent vers des comportements terribles qui font souffrir, qui les mettent en danger quelquefois. Eh oui, mais Jésus déclare, ainsi donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Si le Fils vous affranchit, si Jésus vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Alors oui, il y a besoin de délivrance. Et je suis convaincu que ce soir au milieu de nous, Jésus veut délivrer quelqu'un. Amen. Qui que tu sois, de libération intérieure, on ne les voit pas. Et ces chaînes intérieures, on ne les voit pas. Mais Jésus est capable de les briser, de les faire sauter. Et de les faire disparaître de ta vie. Ah, je reviens, elles ne sont pas visibles aux yeux des autres. Mais toi, tu sais ce qui te tient. Tu sais ce qui te rend malheureux. Amen. Elles sont là au plus profond de toi-même. Et tu soupires. Tu soupires après une délivrance. Eh bien, Jésus est là. Amen. On a besoin d'un attouchement divin pour vivre enfin une vraie liberté. Pour pouvoir s'épanouir dans la vie, être heureux. Amen. Et les personnes le sortent, elles font la fête, mais elles sont malheureuses intérieurement. Alors que je ne sais pas si vous connaissez ce témoignage de ce clown. Un clown qui est très, très réputé, très connu. Il va voir un psy parce qu'il était malheureux. Et le psy lui dit, écoutez, vous devriez faire une chose. Il y a le cirque qui s'est implanté dans la ville. Allez-y, allez voir. Et vous verrez, il y a un clown formidable. Tous les soirs, des gens, mais ils s'éclatent avec lui. Ils se font du bien. Et le clown, il a dit, c'est moi. C'est moi. Comment il s'appelle? Fernand Reynaud. Vous avez connu Fernand Reynaud? Hein? Fernand Reynaud, il avait sur ses genoux un petit garçon. Il disait que c'était son neveu, mais les familles se connaissaient bien, puis il était comme son neveu. C'est son neveu qui me l'a raconté. Il me dit, j'étais sur le genou de Fernand Reynaud. Puis tout d'un coup, je sens sur ma jambe comme de l'eau. C'était chaud. Fernand Reynaud était en train de pleurer. Il a regardé, il a dit, mais qu'est-ce que tu as? Il a dit, tonton, il est malheureux. Tonton, il est malheureux. Pourtant, Fernand Reynaud, si vous avez vu quelques spectacles de lui, vous vous dites, mais c'était un grand personnage. Il amusait tout le monde. Eh bien oui, mais il était très, très malheureux. Il avait besoin lui aussi de rencontrer le Seigneur. Aujourd'hui, ce jeune homme, il est pasteur. Voilà. C'est un homme de Dieu. Un serviteur de l'Éternel. Amen. Alors oui, on a besoin de l'attouchement du Seigneur, de le rencontrer pour vivre quelque chose de nouveau. Parce que lui, il est venu pour cela, je le rappelle. Il est venu, il a été oint pour nous apporter toutes ces choses dont je suis en train de vous parler maintenant. Amen. Alors, on ne peut pas toujours s'en sortir soi-même par nos propres efforts, nos propres forces. Quelquefois, on y est arrivé. C'est pourquoi nous avons besoin, et tu as besoin tout simplement du secours d'en haut. Tu as besoin de Jésus, il faut que tu le crois. Parce que Jésus, lui, il est efficace. Il est efficace, il est puissant pour nous rendre libres. Amen. Il faut lui faire confiance. Comme je disais depuis tout à l'heure, invite-le à venir dans ton cœur et tu expérimenteras dès maintenant. Parce qu'il ne faut pas attendre, on dit plus tard, demain. Non, c'est maintenant, c'est ce soir que tu peux vivre une guérison intérieure. Une délivrance intérieure. Amen. Vous savez que le nom de Jésus, c'est le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Eh oui, c'est le nom du Tout-Puissant. Et il est là ce soir. Jésus conclut en disant, j'étais oint pour que les aveugles recouvrent la vue. Alors on est peut-être aveuglé sur soi-même. Moi, je me considérais comme quelqu'un de bien. Je faisais ma justice. J'étais délégué syndical. Je luttais pour, eh bien, pour le bien des autres. Vous voyez, le mien aussi, hein, mais le bien des autres. Mais oui. Jusqu'à ce que je descende de mon piédestal. Il y a meilleur que moi. Ma femme s'était convertie à Jésus. Oui. Elle priait pour moi. Je ne savais pas. Parce que j'ai dit, tu ne m'en parles pas ton truc. Hein. Tu ne m'en parles pas. J'ai même parlé de séparation, de divorce. Elle a dit, Seigneur, tu t'occupes de mon mari. Et ça, c'est la meilleure des prières qu'elle a faites. On a fait d'autres, hein. Ça marche. Vous savez que 1,53 m de foi, ça déplace des montagnes. Parce que c'est la taille de mon épouse. Hein. Enfin, maintenant, peut-être que... Mais bon, mais enfin, à l'époque, c'était 1,53 m, c'est sûr. Ça déplace des montagnes. Et moi qui me croyais quelqu'un de grand, de bien, de formidable, eh bien, j'ai découvert en Jésus-Christ que j'étais pas grand-chose. Que j'étais pas grand-chose. Eh oui. Voulant faire justice, en voulant faire justice, je crée une injustice. Vous comprenez? Il n'y a que lui qui peut nous rendre justice d'une bonne manière. Il n'y a que lui qui peut nous délivrer intérieurement de notre caractère. Parce que moi, j'avais un sacré caractère, je peux vous le dire. J'allais au boulot et le soir, en rentrant, je ne savais pas si j'étais libre ou prisonnier. Que j'étais capable de commettre le meurtre. J'étais horrible, horrible, impulsif. Eh oui, Jésus m'a ouvert les yeux sur moi. Puisse Jésus t'ouvrir les yeux sur toi ce soir. Amen. Et jour un homme a dit ceci, j'ai été atteint de cécité pendant la guerre. Alors qu'une bombe a explosé pas très loin de moi, je suis devenu aveugle. Par la suite, il a entendu l'évangile et s'est converti. Sa vie a changé, son cœur brisé a été restauré par la puissance de Jésus-Christ. Voyez, quand on est atteint par un mal comme cela, parce que c'est injuste, on pourrait vivre comme cela avec la rancœur. Mais lui, non. Il s'est converti. Il a trouvé le salut. En s'adressant un jour à des jeunes, il leur dira ceci, écoutez mes amis, avant j'avais des yeux et je ne voyais pas. Et maintenant, c'est curieux, je suis infirme des yeux, je suis aveugle et pourtant je vois. Amen. Et touché au bonheur. Alléluia. Il voulait parler d'ici de sa vue spirituelle, de la vue qui lui donnait l'espérance. Amen. Il voyait par la foi en Jésus-Christ le véritable bonheur. Amen. Alors, il y a tant de gens qui ont des yeux en bonne santé et qui ne voient pas leur état, qui ne voient pas justement eh bien, la porte qui peut leur donner accès à la bénédiction, qui ne voient pas la personne de Jésus. Qui sont incapables d'entendre la bonne nouvelle parce que leurs yeux ne le veulent pas. Entendre les yeux, vous voyez un petit peu? Mais oui, quand on ne veut pas, on ne veut pas. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Eh oui. Alors la porte de l'évangile, ça c'est la porte de l'espérance. Amen. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus est venu pour que les aveugles recouvrent la vue. Tu as besoin que tes yeux s'ouvrent. Moi, je le souhaite de tout cœur. Au départ, ça fait mal, je peux vous le dire. Quand vous apprenez ce que vous êtes réellement, c'est un choc. C'est un choc. Mais après, quel bonheur, mes amis. Quel bonheur! Les yeux ouverts sur la réalité de ce que je suis. Ok, mais maintenant, la réalité de ce que Jésus est capable de faire de moi. Les réalités spirituelles, les réalités de l'au-delà, la réalité concernant Jésus ressuscité, celui qui est capable de nous délivrer, de nous affranchir, de faire de nous des hommes et des femmes nouveaux et nouvelles. Amen. Ça, c'est le miracle. Vous avez essayé de vous changer? Où sont les bonnes résolutions du 31 décembre? Il y a longtemps qu'elles sont parties, hein, qu'on n'y pense plus d'ailleurs. Eh bien, Jésus est capable, lui, de faire le miracle. Amen, il est capable. Alors ouvrez les yeux. Réalisez que Jésus est là en cet instant, il est là pour vous personnellement. Il est là pour faire de vous une nouvelle créature. Que le Seigneur ouvre les yeux de votre cœur et que vous puissiez également, dès maintenant, expérimenter la prophétie que Jésus a lue dans cette synagogue. Vous donner un cœur nouveau, vous guérir intérieurement, ouvrir vos yeux. Hein, saisissez toutes les paroles qui ont été dites ce soir, saisissez-les par la foi. Et puis tel que vous êtes, approchez-vous de Jésus. Il ne veut pas que vous fassiez un brin de toilette. Non, 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 tel que tu es, viens. Viens au pied de la croix, viens au pied du Seigneur et crois tout simplement. D'abord qu'il ne te veut pas de mal. Quand j'étais petit, on me disait, tu vas voir le bon Dieu s'il t'attrape. Oui, pétard, j'avais pas envie de ce bon Dieu, moi. J'avais envie de partir, de me mettre dans un trou, mais de me cacher, surtout pas qu'il me voit. Eh oui. Moi, ce que je veux, c'est ce Dieu qui me dit, je t'aime. De cela, j'en veux. De ce Dieu qui me dit, j'ai des bonnes choses pour toi. Fais-moi confiance, viens tout simplement. J'ai du bien à te faire. Alléluia. Alors, j'aimerais vous dire ce soir, pour conclure, soyez bénis dans le nom de Jésus. En cet instant, soyez bénis parce que toutes choses sont rendues possibles par la venue de Jésus ici-bas. Et Jésus qui est là ce soir au milieu de nous, eh bien, se propose de te faire du bien, se propose de se révéler à ton cœur, se propose de faire le miracle dans ta vie. J'aimerais que nous puissions rester comme cela, les yeux fermés, les têtes baissées. J'aimerais prier ensuite, j'aimerais faire un appel. Et si tu as ce désir tout simplement de vivre quelque chose de nouveau, si tu as besoin de voir ton cœur guérir, tes yeux s'ouvrir, sortir de la souffrance dans laquelle tu es, eh bien tu feras le geste de la foi tout à l'heure. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta venue ici-bas. Merci parce que Seigneur, c'est toi le Dieu de la vie, le souverain, celui qui a reçu tout pouvoir, toute autorité. Tu es dans ce lieu ce soir, tu nous as parlé, tu as parlé à des amis qui sont là, tu as parlé également à tes enfants qui ont besoin aussi peut-être de voir des chaînes tomber, une guérison intérieure venir, parce que Seigneur, ils ne peuvent plus vivre comme cela. Alors je te rends grâce par avance pour ce que tu vas faire. Et je te demande, Seigneur, tout simplement de visiter, Seigneur, les cœurs ce soir. Passe, passe, passe. Alléluia. Ouvre les yeux sur la réalité de la vie. Ouvre les yeux, Seigneur, tout simplement sur la réalité des cœurs. cœur. Fais entendre, Seigneur, ton conseil. Oui, je suis là pour te guérir, pour te sauver. Je suis là pour te rendre la vue, pour te donner la vie, une vie nouvelle. Une vie qui va te rendre heureux. Tu vas pouvoir rendre les autres heureux aussi. Tu vas voir les autres changer autour de toi, parce que toi, tu auras changé. Alors, simplement ce soir, ne voudrais-tu pas lever ta main? Ça, c'est le pas de la foi. Moi, je l'appelle le pas de la foi. Je l'ai fait un jour. J'ai levé ma main quand le pasteur a dit « Tu as besoin de Jésus ». Oui, baissez la main. Dieu vous a vu. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Oui, Dieu vous a vu aussi. Baissez votre main. Dieu vous voit aussi. Baissez votre main au fond. Dieu vous a vu. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? N'hésitez pas. C'est le temps de Dieu. Oui, Dieu vous a vu aussi. Amen. Même si c'est un geste, voilà, comme ça. Dieu vous voit aussi. Amen. Merci. Merci Seigneur pour l'action de ton esprit. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? N'hésitez pas. Oui, Dieu vous voit. Dieu vous voit. Oui, Dieu vous voit aussi. Amen. Merci Jésus. Merci pour l'action de ton esprit. J'aimerais maintenant prier pour vous. Dans votre cœur également, vous pouvez prier et dire « Seigneur, tu connais l'état de mon cœur. Tu connais mon état général. Tu connais ce que je vis en ce moment. Tu sais ce qui me tiraille, ce qui me fait peur, ce qui m'angoisse. Seigneur, fais disparaître ces choses, s'il te plaît. Je te demande, Seigneur, de le faire pour ses amis. Encourage-les, Seigneur, à te faire confiance. Encourage-les, Seigneur, tout simplement, en faisant descendre ta paix dans leur cœur et dans leur âme, après les avoir délivrés intérieurement. Je te demande, Seigneur, de faire le miracle maintenant, au nom de Jésus. Je crois que tu le fais, Seigneur, et je te bénis maintenant, dans le nom de Jésus. Ne doutez pas. Ne laissez pas le doute s'immiscer. Dieu est le Dieu de vérité, pas de la demi-vérité. Quand il fait quelque chose, il le fait entièrement, pleinement. Il faut que vous le croyez. Et vous allez le voir s'accomplir. Ce que vous avez demandé au Seigneur. Si vous avez demandé la délivrance, tout simplement de chaînes, de liens qui vous tiennent, qui vous font souffrir. Si vous avez demandé la délivrance de ce mauvais caractère. Si vous avez demandé la guérison intérieure dans votre âme, dans votre esprit, aussi bien que dans votre corps, il va le faire. Ou est en train de le faire. Ne doutez pas. Et si tu ne doutes pas, tu vas voir le miracle s'accomplir. Amen. Amen. On va chanter, on va se lever ensemble. Bien, hein, on a resté assis un bon moment là.